Le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Le raz-de-marée en Europe du variant Omicron. Londres déclenche une procédure d'alerte aux Pays-Bas. Les scientifiques préconisent un reconfinement en France. Tour de vis supplémentaire pour Noël et le réveillon du Nouvel An. Vaccination obligatoire pour les soignants. Vaccination, si tout va bien, pour les enfants à partir de mercredi. Les précisions dans un instant de Sandy Dauphin. Dans l'actualité ce soir également, Marine Le Pen poursuit son déplacement à Mayotte où elle promet de ramener l'espérance. Un bébé d'un an a traversé seul la Méditerranée dans un bateau de migrants. Il est arrivé sain et sauf à Lampedusa. Et nous reviendrons sur le déferlement de violence des supporters lyonnais hier soir à Charletti. La météo entre grisaille, soleil, brouillard givrant. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Le gouvernement explique ne plus avoir le choix. L'épidémie de coronavirus progresse très vite, trop vite. Et après l'annonce hier soir de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, le gouvernement entend accélérer le calendrier de la troisième dose ou dose de rappel et renforce l'obligation vaccinale, à commencer par les soignants et les pompiers. Et ce matin, sur France Inter, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a également annoncé que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans pourrait débuter mercredi prochain, si tout va bien. Un tour de vis supplémentaire à une semaine de Noël. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Avec le variant Omicron qui pourrait, selon un nouvel avis du Conseil scientifique, représenter très bientôt la majorité des cas de contamination en France.
Oui, et ce, dès la mi-janvier, nous dit le Conseil scientifique chargé de faire des recommandations au gouvernement sur l'épidémie de Covid. Pour limiter une flambée des cas à Noël, ce conseil rappelle les précautions à prendre, des gestes de bon sens, des repas en petit comité, s'assurer que les personnes âgées sont vaccinées avec la troisième dose ou encore se faire tester avant les retrouvailles. Ce matin sur France Inter, le ministre de la Santé, qui a eu cet avis entre les mains dès hier soir, a d'ailleurs confirmé en effet qu'il n'y aurait pas de nouvelles restrictions sanitaires pour Noël.
Et il y a aussi, Sandy, l'alerte pour le nouvel an et le conseil scientifique se montre plus inquiet pour le réveillon de la Saint-Sylvestre que pour Noël.
Oui, car traditionnellement, les fêtards se lâchent plus le 31 au soir. Le conseil est donc favorable à des mesures de restriction significatives, y compris pourquoi pas des couvre-feux à certains endroits. Alors cette idée du couvre-feu n'a pas été retenue pour l'instant par le Premier ministre, mais hier Jean Castex a demandé aux mairies de renoncer aux concerts et feux d'artifice pour le réveillon du Nouvel An. À Paris, c'est chose faite. Le traditionnel feu d'artifice et les festivités sur les Champs-Élysées sont annulées. Le Conseil scientifique recommande aussi, y compris aux personnes vaccinées, de se faire tester avant le 31 décembre avec un test antigénique ou un autotest, et puis 5 jours plus tard.
Merci Sandy. Vous l'avez évoqué effectivement, pas de feux d'artifice ni de concert sur les Champs-Élysées. Frédéric Ocard, adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne, répond à Mathilde Dehimi.
C'est un peu la mort dans l'âme, on est un peu contraint et forcé, puisque le préfet de police et l'ARS nous ont envoyé un courrier hier soir assez tard, nous disant qu'ils nous demandaient d'annuler le concert et les festivités qui étaient prévues sur les Champs-Élysées, disant qu'en plus ils ne participeraient pas à tout ce qu'on avait travaillé depuis des semaines avec eux, c'est-à-dire une restriction des jauges, un contrôle des passes sanitaires et tout ça. Donc maintenir en fait le feu d'artifice et maintenir le concert qui était prévu aurait été là pour le coup la mise en danger des gens qui y participaient. On avait un concert avec une jauge à 100 000 personnes, sachant que les Champs-Élysées c'est 400 à 500 000 la jauge, hein, donc avec une jauge restreinte, contrôle des passes sanitaires, 3 artistes françaises de musique électronique, Jennifer Cardini, Maud Jeffrey et Urtrax, et à minuit, un feu d'artifice et la bonne année. Ce que je regrette, c'est que on est en plein air, avec masque. On a aussi quand même un petit peu besoin de ça en ce moment. On a l'impression que c'est toujours à cet endroit-là qu'on prend des mesures de restriction, alors qu'on peut continuer à aller voir un match de foot, prendre le train, s'entasser dans les gares ou à la messe de Noël.
Et en Europe aussi, les restrictions se multiplient aux Pays-Bas. De strictes mesures anti-Covid devraient être annoncées ce soir. Les experts recommandent au gouvernement un retour au confinement. Et à Londres, le maire Sadiq Khan est extrêmement préoccupé par la propagation du variant Omicron. Et il a déclenché aujourd'hui une procédure d'alerte impliquant une réponse coordonnée des services publics. La politique est Marine Le Pen qui poursuit son déplacement de campagne à Mayotte dans l'océan Indien. En meeting aujourd'hui à Mamoudzou, la candidate du Rassemblement National s'est offert un bain de popularité. Beaucoup de femmes notamment sont venues l'applaudir dans une ambiance bien différente des meetings habituels. Sur place à Mayotte, Élodie Forêt.
Sous le soleil de plomb, un enfant, le visage peint en bleu, blanc, rouge,
et une prière pour commencer le meeting. Au micro, un dignitaire religieux. Il laisse ensuite sa place à l'ancien président du département, Daniel Zaïdani, désormais rallié à Marine Le Pen.
Ici à Mayotte, nous avons pris l'habitude de l'appeler affectueusement Tati Mariama.
Mariama, donc, arrive à son tour, collier de fleurs autour du cou. Le public se lève, s'amasse devant la scène.
À vous tous réunis, aujourd'hui je veux dire Maraba, Maraba Niendi.
Le discours est rodé, lutte contre l'immigration et l'insécurité qui, selon Marine Le Pen, en découle.
Combien de lycéens assassinés? Ça suffit! Passivo!
Dans le programme, ça se traduit par la suppression du droit du sol, le renforcement des effectifs de police, des moyens maritimes et aériens.
Tout est là, quoi.
Saïd envisage de prendre sa carte au RN.
Le langage qu'elle a tenu aujourd'hui n'a jamais été tenu par les autres.
Seule voix discordante, celle de cet homme, osant crier « pas besoin d'être raciste pour être français ». Aussitôt, les militants fondent sur lui, le font taire, le traitent de parasite venu des Comores. Saïd soupire, nous sommes tous désormais à fleur de peau.
Je reviens un instant sur l'épidémie de coronavirus en Europe et à l'instant les Pays-Bas donc annoncent un confinement pendant les fêtes de Noël, annonce du gouvernement. L'information est rapportée par les médias italiens. Un bébé d'un an a traversé seul la Méditerranée. Il est arrivé sain et sauf sur l'île de Lampedusa. Le bébé a été repéré par les sauveteurs sur un bateau au milieu d'un groupe de 70 migrants. Rome, Olivier Tosseri.
Il a traversé la Méditerranée avant même d'avoir appris à marcher. C'est l'histoire rapportée par le quotidien La Repubblica, celle d'un enfant d'à peine un an qui a bravé seul les vagues et a été secouru au large de l'île de Lampedusa. Les sauveteurs italiens l'ont repéré au milieu de quelques 70 hommes sur un bateau qui a accosté vendredi sur l'île sicilienne. Les autres migrants ignoraient l'identité de l'enfant, mais ses parents les auraient suppliés de le garder en sécurité pendant la traversée, peut-être parce qu'ils n'avaient pas pu s'embarquer avec lui, selon le journal italien. En attendant de confirmer cette version, les autorités ont confié le nourrisson à une éducatrice avant que l'affaire ne soit traitée par le tribunal des mineurs. Il devra également se pencher sur le cas d'un adolescent de 14 ans dont la mère est décédée lors d'une tentative de sauvetage toujours au large de Lampedusa. Il figure parmi les quelques 500 migrants qui sont arrivés en 7 débarquements distincts sur l'île ces deux derniers jours. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et puis en France, dans le Nord, le jeune Hamza, 12 ans, a été retrouvé sain et sauf. Le petit Hamza avait été enlevé par son père hier soir. Il a été donc retrouvé près de Lens ce matin, en pleine forme, sain et sauf, après le déclenchement d'une alerte enlèvement. Et on a appris ce soir la mort du politologue Laurent Bouvet, cofondateur du Printemps Républicain. Il est mort aujourd'hui à Paris, à l'âge de 53 ans. Le football, côté sombre, fumigène, barre de fer, panique générale, familles attaquées et charges de CRS. La soirée de football hier soir à Charletti pour le 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais a tourné au chaos. Déferlement de violence de la part des supporters lyonnais. Une image désastreuse pour le football. Bonsoir Winnie Carré.
Bonsoir.
Et ce soir, Noël Le Graët, le président de la Fédération, pointe du doigt la sécurité du stade Charletti. Alors que sait-on sur le dispositif mis en place hier soir?
On sait qu'il était très largement renforcé en comparé au match habituel du Paris FC en Ligue 2. Hier soir, il y avait près de 16 000 spectateurs présents au stade Charletti. C'est un record pour le PFC. Parmi eux, 600 supporters lyonnais étaient attendus pour ce match de Coupe de France. Pour les encadrer, 14 stadiers de l'OL étaient mobilisés autour du parcage visiteur, c'est peu pour une telle affluence. Pour le reste, le club parisien avait déployé de son côté 250 stadiers. Les Lyonnais n'étaient pas séparés des autres spectateurs, sinon par un simple plexiglas. De gros fumigènes et d'autres objets interdits ont été retrouvés dans les tribunes, selon le Paris FC, qui est responsable du filtrage à l'entrée, mais qui ne s'explique pas leur présence. Alors après le tour de vis réclamé par le gouvernement jeudi pour faire cesser les violences dans les stades, la Fédération française de football va convoquer sa commission de discipline en urgence. Elle devrait se réunir mardi ou mercredi prochain. Le président de la FFF, Noël Le Graët, promet en tout cas une réponse ferme.
Winnie Claré, merci. Une arrivée en solitaire et drapeau tricolore à la main, c'est l'image que l'on retiendra du sport français au Grand Bornand. Lors de la Coupe du Monde de biathlon, Quentin Fillon-Maillet remporte la poursuite et s'empare du dossard jaune du leader de la Coupe du Monde. Il a fait la différence au tir, un sans faute. Quentin Fillon-Maillet très ému au moment de franchir la ligne d'arrivée, Jérôme Val.
Il n'en fallait pas plus pour chauffer un public déjà survolté. Un succès tricolore à la maison. Avec cette course, Quentin Fillon-Maillet s'est forgé des souvenirs pour toujours.
Jusqu'à la fin de ma vie, certainement. Ça, c'était vraiment extraordinaire. J'ai pas mal de victoires, beaucoup de podiums, beaucoup d'émotions en biathlon, mais ça fait partie des émotions les plus fortes que j'ai vécues dans le biathlon.
Le Jurassien n'a rien laissé à ses adversaires. 20 sur 20 au tir, la note suprême. Il est même sorti de la dernière séance avec 30 secondes d'avance. Ce qui lui a permis d'exulter et de profiter d'un dernier tour plutôt tranquille, presque un tour d'honneur devant 20 000 personnes.
J'ai salué le public, j'avais le sourire tout le long de la boucle. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui, j'ai vraiment vraiment de la chance.
C'est sa deuxième victoire de la saison, elle lui permet même pour 3 petits points de prendre la tête du classement général de la Coupe du Monde.
Le dossard jaune, il faudra surtout l'avoir le dernier jour de la saison avec un globe de cristal. Ça faisait partie de ses objectifs de carrière d'aller chercher le dossard jaune. Je ne m'attendais pas du tout à le faire aujourd'hui, mais voilà, tant mieux.
Il lui reste encore une occasion de briller demain avec la Mastart. Le Grand Bornand, Jérôme Val, France Inter.
Et autre médaille du jour pour les Français, la deuxième place de Julia Simon dans la poursuite féminine. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine Siméone.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors avant de quitter 2021, vous vous êtes projeté sur 2022. Quelle vie connectée pour les années à venir? Et vous avez consulté, Christine, quelques observatrices de la vie sur les réseaux. Et 2022 sera une année TikTok, encore plus que 2021.
Oui, TikTok a réussi à s'imposer massivement cette année et devrait continuer l'an prochain. Chaque minute, on y visionne 167 millions de vidéos. Au départ, ce sont les plus jeunes qui l'ont massivement investi, hein, puis des personnalités s'y sont mises, et même les politiques désormais. Maintenant, voici le temps des marques. TikTok sera le nouveau marché pour les vendeurs de toute nature. Écoutez Emmanuelle Leneuf, fondatrice du média indépendant digital La Flash Tweet.
Il y a beaucoup de marques qui sont nées sur TikTok depuis le confinement, en fait, avec des gens qui créent leur entreprise de chez eux, hein, pas de leur garage, mais dans leur chambre. On les voit derrière avec leurs produits exposés, ils font des lives et ça leur permet grâce à l'algorithme de TikTok, d'émerger. Il y a une vidéo qui devient virale et ben voilà, il y a des clients qui arrivent et c'est comme ça qu'ils créent leur entreprise, que ce soit dans le domaine de la cosmétique ou des bijoux, ou enfin des sujets assez variés. C'est vrai que TikTok a cette capacité à créer du lien, finalement. D'ailleurs, au passage, TikTok a complètement ringardisé YouTube.
Alors attention, on est passé à la tendance du live pour vendre des produits. C'est très important, c'est la tendance qui monte, qui va se diffuser sur tous les supports qui le permettent. Et dans certains cas, vous verrez, Frédéric, ça vous fera peut-être penser au bon vieux téléachat version réseaux sociaux.
Une autre tendance devrait émerger, Christine, en 2022, c'est la mise en route du métaverse sur Facebook.
Alors métaverse, oui, cela vous permettra par exemple d'avoir un avatar, un double de vous virtuel.
Ça va être un univers virtuel où on aura son propre avatar. On pourra aussi s'habiller avec les marques qu'on affectionne particulièrement. Il y a d'ailleurs tout un marché autour de ça. Et donc avec Nike qui vient d'acheter une start-up et qui se lance dans les baskets numériques. Donc on voit bien que toutes les marques en fait vont avoir envie d'être présentées dans cet univers virtuel. Et finalement, ça me paraît évident qu'on va y aller.
Oui, et là vous serez donc virtuel, mais ça peut vous coûter assez cher, hein, si vous voulez un avatar tendance avec des vêtements virtuels à la mode. Et au-delà de ça, une fois habillé, eh bien vous y suivrez par exemple des formations, vous visiterez des magasins. Encore une fois, l'année 2022 sera une année test pour cela.
Tous virtuels, Ma Vie Connectée, Christine Siméone, à retrouver sur franceinter.fr.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
La météo avec Jean-Michel Golinski.
Comme on le dit, les jours se suivent et se ressemblent avec depuis quelques jours le maintien d'une ambiance anticyclonique et par définition très calme sur l'ensemble du pays. Le revers de la médaille pour cette journée de dimanche, ce sont les brouillards répandus en fin de nuit et souvent givrants des régions centrales à la moitié sud où les températures vont évoluer entre 0 et moins 4 degrés. En journée, le gris sera souvent de mise, du nord de la Loire à la frontière allemande, tandis que plus au sud, le soleil va s'imposer, avec un bémol concernant l'évolution des brouillards, plus lente sur le Haut-Rhin, près de la Garonne et dans le Val-de-Saône. Autour du golfe du Lion, les entrées maritimes vont donner un ciel un peu plus variable. Les températures de l'après-midi vont stationner à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, sauf entre les Charentes, le Limousin et les Pyrénées, où elles vont perdre 2 à 4 degrés.
Jean-Michel Golinski de Météo France.